Et c'est le Saint-Esprit qui pousse à ce genre de démarche pour mettre en nous ce ministère de la réconciliation et que l'Église soit vraiment le témoignage de l'harmonie. Amen.
Gloire à Dieu. Je crois que je vais d'abord m'assurer que vous m'entendiez bien. Quelquefois, il y a un petit peu d'écho. Moi, je suis un petit peu sourd d'oreille, donc j'ai parfois difficulté d'entendre tout à l'heure quand quelqu'un parlait, notamment quand Jean-Luc parlait. Alors, il faudrait que ça soit une première chose qui soit sûre, c'est que vous m'entendiez bien. Il y a un peu d'écho dans la salle. Alors, quand c'est couvert un peu par la musique, c'est tout juste pour ne pas avoir encore d'appareil, mais c'est pas assez pour en avoir, vous comprenez? Donc, on est quelquefois à la limite et on a des difficultés d'entendre. Peut-être que je suis le seul ici, tant mieux. Je peux avancer un peu? Avancer le pupitre. Déplacer le... Là, comme ça, peut-être, non? Non, mais on peut faire des essais, hein. Ça va? Ou alors on ne met pas de micro, c'est pas mieux, non? C'est pire encore. Bon. Ce serait bien que... Ça serait bien qu'il y aurait des choses pour vous donner une acoustique meilleure. C'est important aussi, parce qu'on a besoin d'entendre de toutes nos oreilles la parole de Dieu. Ça marche?
Oui, ça marche.
Hein? C'est très important. Comment? Ah, mais des espèces de coquilles d'œufs, vous savez, toutes sortes de produits, mais ils sont très chers. Mais bon, Dieu peut vous... Ah bon? D'accord. C'est très gênant de parfois d'être... Non, mais votre salle est très bien, hein. Je ne suis pas ici pour dénigrer votre salle, hein. Qu'on s'entende bien, parce que c'est une très belle salle. C'est un cadeau. En plus, c'est même pas le prix. Loin d'être le prix, à mon avis. Le prix de sa valeur. C'est vraiment un cadeau du Seigneur. Et nous sommes contents, vraiment réjouis pour vous que vous soyez ici. C'est simplement une petite chose supplémentaire qu'il faudra peut-être prévoir si vous le désirez. Voilà, c'est une petite suggestion. Je ne vais pas en faire plus parce que je ne suis pas dans mes locaux. Je suis dans vos locaux, alléluia. Mais c'est important qu'on puisse bien s'entendre. Alléluia. Ou qu'il y a beaucoup de pensées qui se bousculent dans mon esprit, évidemment, quand on est comme ça, avec le Seigneur et avec le communion fraternel. D'ailleurs, je veux aussi saluer la qualité parmi les dons que le Seigneur a donné à Jean-Luc, la qualité spirituelle qu'il a de vivre avec ce tempérament de douceur, de conviction d'amour fraternel et de désir d'unité. Si je suis là devant vous, c'est lui qui est venu me chercher. Et donc c'est une très belle qualité aussi qu'il a, votre pasteur, d'être ouvert, d'être largement ouvert, d'être animé de ce désir d'unité, de communion fraternelle avec tout le peuple de Dieu. Des fois, je me dis, s'il pouvait être en contact avec tout le monde entier, je crois que ça lui ferait, tout de suite, avant d'être là-haut, ça lui ferait plaisir. Mais il faut encore attendre pour être tous ensemble. Et c'est une bonne qualité, alléluia, gloire à Dieu. Alors, quand j'ai vu aussi Guette danser tout à l'heure, j'étais un peu surpris parce que, bon, je n'ai pas fréquenté beaucoup d'églises, hein, mais... J'ai déjà eu ce genre de manifestation. J'ai vu ce genre de manifestation dans les églises. Et non, j'en suis pas choqué. Je me dis au contraire que c'est tout ce que l'on fait pour le Seigneur, c'est important. Nous devons pas attendre. Cette tendance facilement humaine, je ne sais pas si c'est seulement pour les Français, mais d'attendre de recevoir, d'attendre d'être en forme spirituelle pour prier, d'être en forme pour louer le Seigneur, d'être rempli de l'Esprit pour témoigner, etc. C'est pas tellement bon. Je pense qu'il faut plutôt faire. Il faut que, quelque part, nous nous poussons nous-mêmes à faire des choses. Et je crois que même la manifestation de ce que l'on fait, que ce soit dans la prière, la danse, le témoignage, la louange, etc., va entraîner aussi notre cœur. Si nous le faisons uniquement pour la gloire de Dieu et pour lui, eh bien le Seigneur va nous entraîner, va nous aider. Notre cœur va suivre plus facilement. Nous attendons parfois trop de notre cœur et nous avons besoin de volonté pour faire. Et ensuite, si nous faisons vraiment de tout notre cœur, enfin de toute notre volonté, même si ce n'est pas de tout notre cœur, c'est ça que je voulais dire, le cœur va suivre, le Seigneur va nous bénir pour le faire. À chaque fois que je vois quelqu'un danser, je pense à David et à sa femme. Vous savez, là, forcément, je crois que je ne suis pas le seul. la fille de Saül, comment elle méprisait son mari parce qu'elle est restée stérile à cause de ça. Parce qu'il dansait pour le Seigneur. Alors, toute position comme ça que l'on est amené à faire publiquement, nous devons vraiment être très attentifs aussi, parce qu'il faut vraiment que ça soit pour le Seigneur. Et constamment, nous devons veiller fortement à ce que ça ne soit pas pour autre chose que pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas ? Alors j'avais envie moi aussi de me lever, moi je ne sais pas danser, mais le Seigneur n'attend pas seulement que les gens savent danser pour qu'on danse pour lui. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai dit personne ne le fait, alors je ne vais pas le faire. Hein. Souvent on agit comme ça aussi, vous voyez. Mais si, c'est parce que je ne suis pas chez moi quand même. Hein. Mais parfois c'est comme ça, on n'ose pas parce que ça fait drôle. Il m'est venu aussi une pensée, un retour à un texte de la parole de Dieu que j'ai reçu, pas seulement comme promesse. Nous aimons bien les promesses de Dieu, vous avez raison d'y croire et de les rechercher et de les vivre. Mais il y a des injonctions du Seigneur aussi. Et dans mon service, et au début de mon service, une des paroles percutantes et fondamentales que j'ai reçues se trouve dans Jérémie. Je ne sais pas pourquoi ce matin, pendant la prière, j'ai repensé à ça, c'est très rare que j'y pense. Je peux quelquefois être des années, 2-3 ans sans y penser. Et ce matin, j'ai pensé, donc je la partage avec vous, simplement. C'est dans Jérémie, chapitre 15, au verset 19. « C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu reviens à moi, je te ferai revenir. » Ça ressemble un petit peu à ce que je viens de vous dire. Tu reviens, mais moi je vais t'aider à revenir. Il y a la contribution de l'homme et il y a l'intervention de Dieu. Je te ferai revenir à ton poste devant moi. On va faire une prédication là-dessus. Hein. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de revenir à eux. Pour moi, ça a été quelque chose de clair par rapport à des personnes. Maintenant, peut-être pour vous, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas important. Peut-être ça veut dire quelque chose. À vous de chercher. Je ferai de toi pour ce peuple un mur de bronze fortifié. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer, oracle de l'Éternel, je te délivrerai de la main des hommes mauvais et je te libérerai de la main des tyrans. Alors une des choses que nous avons dû accepter et pratiquer lors de notre conversion, c'est l'abaissement et l'humiliation. Pour passer du côté du Seigneur, une seule porte, c'est tellement fondamental. J'avais 6 ans quand à l'école du dimanche, j'ai entendu parler de ces deux portes et de ces deux chemins. Et ça m'est toujours resté dans la tête. C'est le seul message, un des seuls messages qui m'est resté. Nous avons le devoir de nous poser la question, parce que derrière cette porte, vous savez qu'il y a un chemin étroit. Et posons-nous la question, quelle est la largeur du chemin sur lequel je marche ? Les écarts concernant mon attitude à l'égard du péché, de mes fautes, en un mot aussi, où est ma sanctification ? Mon attitude à l'égard de ma liberté en Christ, ma relation avec Dieu, ma relation avec mon Église, mes frères et sœurs, mon attitude à l'égard des inconvertis, du monde, de ses attraits, à l'égard également de l'ennemi, le grand saboteur, de ma piété. Vous m'entendez bien, ça va ? La parole de Dieu nous montre tout sur les caractères de Dieu. Et parmi cela, il y a un fait certain, c'est que Dieu est humble. Jésus disait, je suis doux et humble de cœur. Je suis humble de cœur. En toutes circonstances, Jésus est et restera le même, c'est-à-dire doux et humble de cœur, aussi bien dans son abaissement que dans son élévation. C'est pourquoi nous devons prendre garde, celui qui s'abaisse sera élevé. L'homme ne connaît pas l'humilité de manière naturelle. Le péché le conduit continuellement à se rehausser. C'est une tendance constante en nous, à cacher ce qu'il est, au fond de son cœur. D'ailleurs, c'est une solution incontournable pour être accepté des autres. Il n'y a que Dieu qui nous aime avec toute notre laideur telle que nous sommes. Nous avons beaucoup de difficultés, et nous aurions beaucoup encore plus de difficultés de nous aimer les uns les autres en sachant ce qu'il y a tout au fond de nous, ce que le péché peut aussi quelquefois mettre dans nos pensées, dans nos cœurs. Plus le fait d'être accepté, l'homme recherche aussi, en dehors de ce fait-là, je veux dire, recherche la reconnaissance, l'admiration même aussi, l'élévation, la considération des autres, c'est quelque chose de réflexe. Et, comme la Bible dit, considérer les autres comme étant au-dessus de soi-même dans tous les domaines, pas seulement dans un seul domaine, et dans tous les autres, le contraire, n'est absolument pas dans nos gènes. Y a-t-il quelqu'un... Je me suis dit, est-ce que je vais poser cette question? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'orgueilleux parmi nous? Je m'attendais à ce que personne ne réponde vraiment. Parce que, d'abord, vous n'êtes pas obligé de suivre le caprice du prédicateur. Deuxièmement, vous pouvez aussi vous dire, il y a des choses que je ne vais pas manifester en public. Vous avez le droit aussi. Et puis, il y a aussi encore une autre raison, c'est que nous avons du mal à admettre que nous sommes orgueilleux. Alors, je n'ai pas été plus loin pour vous poser la question. Mais vous savez que le reconnaître, et ce n'est pas dans les premières années de ma vie chrétienne que j'ai pu dire franchement, je suis un orgueilleux. Il a fallu pas mal d'années. J'aimais bien les textes qui nous parlent à celui qui est humble, Seigneur ceci, Seigneur cela. Et je me disais, finalement, ben, c'est bien, tu es humble, et puis tu travailles pour être humble, etc. David était humble, tous les gens de Dieu sont humbles. Parce que, voilà, parce qu'on aime l'humilité, parce qu'on cherche l'humilité. Mais ce n'est pas naturel chez nous. Toute la parole nous présente l'humilité de Dieu. Alors je disais que admettre l'orgueil, c'est le commencement de l'humilité. Toute la parole nous présente l'humilité de Dieu qui aime et choisit toujours, toujours la petitesse. C'est extraordinaire. Il faudrait passer des heures pour découvrir ça dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Dieu chérit ce qui est petit, c'est extraordinaire. Ouais, les petits commencements, etc. Nous, on aime bien les grandes fins. Les grandes fins F.I.N. Dieu n'utilise qu'une infime partie de ses pouvoirs, vous êtes d'accord? Et de sa puissance. Toujours une infime partie. C'est comme si vous aviez 500 chevaux dans votre moteur et vous n'utilisiez que 15 chevaux. C'est rien du tout. Il n'utilise rien de ce qu'il a. Et malgré notre conversion, c'est comme ça qu'il est du Seigneur. Malgré notre conversion, nous chrétiens, et les pasteurs aussi, restent longtemps, longtemps, même certains pour toute leur vie, peut-être, subjugués, attirés, fascinés par le grand, le beau et le fort. On est tellement admiratif et l'on compte bien trop sur la puissance, les miracles, les prodiges, les manifestations. Si Dieu répondait au désir spirituel légitime, entre guillemets, de ses enfants, n'est-ce pas pour la gloire de Dieu finalement? Mais parfois, en voulant et en le disant et en priant pour ta gloire, Seigneur, je ne vais pas me plaindre si j'en reçois quelques éclaboussures également. Pourquoi Jésus fuit la foule rassasiée de pain? Est-ce que c'est par humilité, d'après vous? Est-ce que Jésus, quand il fuit dans l'évangile de Jean, la foule rassasiée par le pain, par les pains, par la multiplication des pains, et qu'il faut rechercher le lendemain avec la barque qui est déjà partie, il le retrouve finalement? La foule le retrouve. Pourquoi? Est-ce que c'est par humilité que le Seigneur fuit? Pensez-vous que c'est à cause de ça? Moi, je ne crois absolument pas que c'est à cause d'humilité. Tout à l'heure, rappelez-vous, je vous ai dit que ce soit dans son élévation ou dans son abaissement, le Seigneur reste humble. Jésus porté en triomphe, ce serait tout à fait légitime et il ne perdrait pas son humilité. Ce serait tout à fait juste qu'il accepte. Alors pourquoi? Il fuit la foule. Ce n'est pas pour lui-même, c'est pour la foule. Il veut leur faire comprendre quelque chose, c'est que il y a un autre bien qu'il veut pour cette foule que de lui donner à manger pour son corps, vous le savez comme moi. Jésus veut que leur âme soit rassasiée, leur salut. Et leur salut passe par une recherche différente. Il faudrait qu'ils le recherchent pour être débarrassés du péché. Ah, ce mot gênant, parfois encore même pour nous. Est-ce que nous avons encore besoin d'être débarrassés, délivrés, allez, je vais dire émondé, comme ça vous êtes absolument d'accord, du péché. Est-ce que nous recherchons encore et continuellement, pas seulement pour cela, mais aussi pour cela, la présence, l'action de Dieu? Même les serviteurs de l'Ancien comme du Nouveau Testament échappent, en fait n'échappent pas plutôt à cette réalité, je viens d'exposer ici concernant l'humilité absente au cœur de l'homme. Prenons l'exemple de Samuel. Il voit en Saül l'homme idéal pour régner sur Israël. Grand, fort, beau, intelligent, etc. Capacité, il faut, n'est-ce pas? Saül pourrait être même, quelque part, son héros, Samuel. Peut-être lui se considérait vraiment n'ayant pas toutes ses capacités, toutes ses qualités, qualités de Saül. Peut-être aussi notre admiration nous porte à classer les personnes aussi, ou peut-être les serviteurs de Dieu, sur une échelle fictive, et même les chrétiens, n'est-ce pas? Les Corinthiens l'ont fait. Dieu dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ?» Peut-être il voulait dire, « C'est ma décision de le rejeter. Pour qui me prends-tu? Est-ce que je n'ai pas de discernement ?» Et on peut se demander si Samuel était vraiment d'accord avec Dieu. Pensez-vous que Dieu soit toujours d'accord avec nous? Quand, pour la dernière fois, l'avons-nous entendu dire, « Je ne suis pas d'accord avec ceci ou avec cela ?» Et puis, l'aurions-nous vraiment reconnu, confessé et abandonné cet écart? Ça aussi, l'émondage à sanctification. En fait, je me dis parfois que cela nous arrange tellement bien que Jésus soit au ciel, parce qu'il ne nous fait jamais, presque jamais, de reproches. J'ai même la liberté, une certaine liberté, et parfois avec cette liberté, j'en prends à mon aise, que ce soit dans ma famille, dans l'église, avec mes frères, avec mes sœurs, etc. Mais ce que nous faisons, nous ne faisons pas, le mal ou le bien, l'amour ou l'indifférence, le pardon ou la rétention, c'est à Dieu que nous le faisons. Ensuite, Dieu envoie Samuel choisir un autre roi, l'un des fils d'Isaïe. Pas Isaïe, hein, Isaïe, il y en a plusieurs qui s'appellent Isaïe, mais c'est encore une même racine de mots. Ils sont tous ensemble rassemblés. Et voici tout de suite Éliab frappe les yeux de Samuel. Vous connaissez cette histoire? Il n'avait pas encore appris la leçon avec Saül. Pierre ne savait pas qu'il pouvait entrer chez un païen pendant toute sa marche avec Jésus. Ça m'a vraiment frappé le jour où je me suis rendu compte de ça. Vous vous rendez compte? Pendant 3 ans, Jésus ne lui a pas fait comprendre suffisamment qu'il allait ouvrir l'accès du salut aux païens. Il a attendu ces 3 ans, et je ne sais pas encore le temps qu'il y a entre l'ascension de Jésus et le moment où Pierre va entrer dans la maison de Corneille. Donc plus de 3 ans. Il va falloir que Dieu lui envoie, lui apprenne quelque chose qu'il n'a pas compris, qu'il n'était pas peut-être prêt à comprendre, à recevoir. Avons-nous encore des leçons à apprendre? Ou est-ce que nous régnons déjà comme les Corinthiens aussi le faisaient? Déjà, vous régnez. Est-ce que votre pasteur peut encore vous aider à apprendre une leçon. Je ne dis pas qu'il est là pour vous faire des leçons, mais est-ce qu'il peut vous aider à apprendre une leçon ? Ou est-ce qu'il n'ose pas vous approcher, ne sachant pas comment, par quel bout vous prendre ? Pourtant, nous ne sommes pas susceptibles. Tiens, une sœur jumelle de l'orgueil. Samuel se dit, voilà le futur roi. Même péché d'orgueil. Cette fois, Dieu lui énonce clairement la leçon. Nous trouvons bien sûr, et que nous connaissons presque par cœur, 1 Samuel 16, versets 6 et 7. On dit ceci. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement le Messie, l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté comme Saül. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. L'Éternel dit non plus, ce n'est pas celui-là. Et vous connaissez aussi la suite. C'est le tout dernier, le bon dernier. Certains des derniers seront les premiers, comme dit la parole de Dieu. Qui aurait pensé que Dieu choisisse ce gamin pour le servir ? Oh, maintenant, nous connaissons David, alors pour nous, ça ne fait pas du tout de doute là-dessus. David, c'est un grand homme. Mais quand il a été choisi, il n'était même pas dans la salle ou dans la maison de son frère, de son père. Il n'avait pas été convié. Jamais personne, ni le prophète Samuel, n'aurait imaginé que ce soit ce gamin-là que Dieu choisisse. Est-ce que David a été choisi parce qu'il est humble de cœur ? Vous allez me dire, peut-être on peut être humble de cœur naturellement, mais quand même avec l'orgueil. Amen ? La nature de David a aussi de l'orgueil. Nous le voyons par la suite. Mais il permet à Dieu de travailler en lui. Voilà toute la différence. Il ne s'agit pas de savoir ce que je suis, il s'agit de savoir si je laisse Dieu continuer son œuvre en moi. Et vous savez, ce n'est pas une école que l'on quitte à la maturité avec le Seigneur. À 70 ou 80 ans, Dieu nous apprend encore. Nous avons besoin qu'il nous émonde sans cesse. Sans cesse. Parce que cela repousse sans cesse. On ne s'occupe pas d'une vigne une fois pour toutes. On s'en occupe jusqu'au bout. Ça repousse sans cesse. C'est pourquoi, vous connaissez ce texte, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Encore une fois, on pourrait se dire, ah ben, tant mieux pour les humbles, tant pis pour les orgueilleux. Mais non, l'orgueil, c'est vrai que c'est une muraille infranchissable entre Dieu et l'homme. Et moi, à cause de mon orgueil, pendant des années, j'ai résisté à Dieu. Il m'a fallu vraiment des actions de salut musclées pour me sortir de mon camp. Mais à un moment donné, j'ai déposé quelques armes. Je n'ai pas dit que j'ai tout déposé, même encore aujourd'hui. J'ai commencé à déposer des choses, j'ai commencé à accepter de m'abaisser, parce que je savais que la porte était étroite et que le chemin qui s'ensuit est aussi. La première leçon, donc, c'est « Seule l'humilité permet, favorise le travail de Dieu en moi et avec moi. » Et nous ne pouvons pas nous passer sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous ne pouvons pas nous passer, jour après jour, même quand ce n'est pas votre idée aujourd'hui de penser que Dieu travaille en vous, quand ce n'est pas votre idée de laisser travailler en vous, quand vous n'en avez pas envie, il travaille quand même. Ou il attendra peut-être, mais il continuera son travail. Parce qu'il ne force pas, mais il travaille. Et c'est ce que j'ai compris récemment aussi. Je me disais, nous prions pour des conversions, mais avant que la conversion se fasse, Dieu est déjà en travail. Nous croyons que quand nous prions pour une conversion, ben c'est 2 jours avant que le Seigneur, la personne se convertit, c'est 2 jours avant qu'il l'a. Non, non, ça peut durer 10 ans. Il peut travailler à travers sa profession, il peut travailler à travers ses circonstances, il peut travailler à travers ses épreuves. Dieu travaille pendant des années, toujours, avec les inconvertis, avec certains. Dieu connaît, qui vont venir à lui un jour. Et puis, il continue de travailler avec nous. Deuxième exemple, Élie, vainqueur contre seul contre 850 faux prophètes. Il se considère aussi l'un des rares rescapés de la foi. Il se croit meilleur que ses pères, c'est ce qu'il finit par avouer. Dieu sauve Élie de son orgueil. Il lâche la main d'Élie. Et lui qui était vainqueur contre 850 prophètes, il faisait venir le feu, tout ce que vous voulez, sur le torrent. Peur de rien, Dieu est avec lui. Celui-ci ne se retrouve plus bon à rien qu'à se sauver pour sauver sa vie. Devant une seule personne, une simple femme, pas n'importe laquelle, Jézabel, mais n'empêche, la foi qui lui avait fait résister et tuer 850 faux prophètes n'était plus là. Il déprime, j'ai entendu des messages aussi là-dessus, se décourage de lui-même, se décourage du peuple de Dieu, se décourage de lui-même aussi surtout, il se dit, mais je ne suis pas meilleur que mes pères finalement. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a cru qu'il était quand même un peu meilleur que les autres. Et ça fait partie du travail de Dieu, de l'émondage. Il va se retrouver dans une grotte, et vous connaissez la suite. Et j'en dis quelques mots quand même, parce que c'est tellement important. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette grotte? Une tempête! Un tremblement de terre! Un feu! Et puis un murmure doux et léger. Et Dieu se trouve exceptionnellement dans le murmure doux et léger. Ou est-ce qu'il est attiré par les petites choses? Est-ce qu'il est humble? Il se retrouve dans le murmure. C'est une leçon extraordinaire qu'il nous donne à Élie et qu'il nous donne à nous. Murmure doux et léger, mon fardeau est doux, mon fardeau est léger et mon joug est doux. Ce tremblement de terre, ce feu, cette tempête, fait penser à la première Pentecôte. Hein? Je ne suis pas contre la première Pentecôte, mais je dis merci Seigneur qu'il n'a pas renouvelé continuellement ce genre d'affaires. Non, pas vous. Ça ne nous fait pas toujours du bien. Cette grandeur, cette puissance à l'œuvre qui nous attire tellement. C'est dans ce murmure que Dieu se tient. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Aucun chrétien évangélique, protestant évangélique, ne se vante de ses mérites à gagner son salut. Vous êtes d'accord? Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. On est tous tellement bien instruits sur le salut par grâce, n'est-ce pas? Mais le diable nous attend ailleurs. Ce qui nous divise, ce sont les capacités spirituelles. La manière d'être ou de faire. Les dons, j'ai lâché. Les dons spirituels, pas les fruits. On entend ce genre de remarques. Il faut qu'il y ait des choses. Oh! Dans cette église, je suis allé, j'ai vu des choses, j'ai entendu. C'est là que je veux retourner. C'est la manière. C'est ce qui se passe et qui ne se passe pas ailleurs qui m'intéresse, qui me gratifie, qui m'aide à me développer spirituellement. Tromperie. Tromperie. C'est le Christ. La manière, c'est secondaire. C'est le Christ. Personne d'autre. Tout à l'heure, dans la première prière de Jean-Luc, j'étais quand même content, petit clin d'œil encore. Ma grâce te suffit. Et je vais y venir. Alors, nous sommes spirituellement dans le domaine spirituel, je veux dire. Je ne veux pas dire que ça soit vraiment spirituel. Mais dans le domaine spirituel, ce qui n'est pas vraiment toujours très spirituel, nous sommes enclins aussi d'aller, de faire, de rechercher, de favoriser parfois, de préférer le plus grand, le plus beau, le plus fort. Certains chrétiens qui marchaient fidèlement bien dans leur église, qui participaient à des services en communion avec leurs frères et en paix, sont soudainement pris de vertige. La tête leur tourne. J'aimerais vous lire quelques textes, d'abord dans l'Épître aux Galates, chapitre 5. Galates 5, chapitre, verset 6b. La foi est ce qui est important, ce qui a de la valeur, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Voilà la valeur. La foi qui est agissante par l'amour. Est-ce que c'est un fondement dans notre vie? La suite dit, vous couriez bien, qui vous a arrêté? En vous empêchant d'obéir à la vérité. Dans le contexte, il y a certaines raisons, mais je suis convaincu, circoncision en circoncision, les problèmes entre les juifs légalistes et puis judéo-chrétiens, vous voyez, et ceux qui étaient sortis du judaïsme, etc. Mais je pense qu'il y a bien d'autres raisons aussi pour lesquelles le même apôtre Paul dirait à son église aussi aujourd'hui, à l'église aujourd'hui, qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est pour moi, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la condamnation. Et au chapitre 4, on n'a même peut-être pas tourné la page, versets 12 à 20, il est dit ceci, « Soyez comme moi, puisque moi aussi je suis comme vous, frères. Je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous le savez, ce fut à cause d'une maladie que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile, faiblesse. Et mis à l'épreuve à cause de ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous rends ce témoignage que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas bon, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est bon d'avoir du zèle pour le bien en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Et dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 11, versets 1 à 6, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. » Car si le premier venu vous prêche un autre Jésus que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. J'estime que je n'ai été inférieur en rien aux apôtres prétendus supérieurs, bien que profane pour l'éloquence, Je ne le suis pas pour la connaissance, et nous l'avons manifesté de toute manière à tous égards parmi vous. Je vais vous raconter quelques anecdotes. J'en aurai certainement plus, mais il aurait fallu plus de temps encore pour que je vous prépare ce message, et plus de temps pour le délivrer. Je vais vous rapporter ces anecdotes. Ne croyez pas que je suis là pour faire du mal, ce n'est pas mon désir en tout cas. Je sais que nous pouvons être en tant qu'hommes sujets encore à toutes sortes d'erreurs, etc. Vous en prendrez ce que vous voulez. Je ne vous aurais pas donné ces exemples il y a quelque temps de cela. Mais j'ai maintenant, avec ce que j'ai vécu à mon église, ce que j'ai vu dans le monde évangélique, je n'ai pas vu beaucoup, je ne suis pas un grand voyageur, mais j'ai pris des positions. Alors, ne croyez pas que je fais ici du pro-charismatisme ou de l'anti-charismatisme. Ne jugez de rien avant le temps, nous dit la parole de Dieu. Donc j'essaye, et je veux vivre cela, et j'espère, et je vais faire les efforts encore pour ne pas aller au-delà, n'est-ce pas ? Mais, à un moment ou à un autre, je me suis dit, il faut quand même mettre les choses au point. J'étais dans une réunion, une église qui n'est pas acceptée de toutes les églises évangéliques. J'essaierai de vous nommer le moins possible de choses pour que vous ne puissiez pas vous repérer. Et si vous le faites encore, je vous demande de l'indulgence et de ne pas supposer que je suis ici pour dire des choses contre une façon d'être dans le monde évangélique ou certaines églises. Mais j'ai discuté après cette réunion avec une personne qui se trouvait là, qui était à peu près de mon âge, et qui avait vécu pendant plusieurs dizaines d'années dans une autre église. Et je lui ai dit, mais sœur, pourquoi vous êtes, vous êtes de l'église ? Mais oui, je dis, mais pourquoi vous êtes de l'église ? Pourquoi vous n'êtes plus dans votre église ? Oh, mais j'ai prévenu mon pasteur, j'ai eu une conversation avec lui, j'ai eu même sa bénédiction, ce que je ne comprends toujours pas maintenant. Excusez-moi, je suis quand même libre de vous dire ce que je ressens vraiment. Et je ne comprends pas. Mais, elle dit, j'ai reçu son approbation quand je lui ai dit que l'église que je trouvais, il y avait quelque chose de plus que dans l'église où je suis. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez de plus ? Ici, un prophète, n'est-ce pas ? Qui est extraordinaire, qui nous révèle des choses. Des choses que nous vivons, que nous n'avons jamais vécues. Et j'ai dit, et elle me dit, je vais vous donner un exemple. Dernièrement, il me disait, c'est une femme intelligente qui était responsable dans une association chrétienne, de mon âge, intellectuelle, bien, bien assise. C'est ça que je ne comprends pas. Et elle me disait, voilà, dernièrement, le prophète m'a dit, tu as l'esprit de Jézabel. Alors, je connaissais Jézabel. C'est une idolâtre, une blasphématrice, n'est-ce pas ? Et une criminelle. Vous comprenez, hein ? Déjà, je ne sais pas si c'est quelque chose d'assez logique qu'on puisse dire à une chrétienne, tu as l'esprit blasphématoire, criminel, enfin, etc., tout ce que cette femme a fait. Et alors, je lui dis, écoutez, vous avez intelligence, vous avez acquis de la connaissance. Vous avez déjà en tant qu'être humain une conscience. Vous avez votre conscience pour le bien et le mal. Vous avez une bonne éducation dans votre enfance, c'est sûr. Vous avez la connaissance de la parole de Dieu. Vous étiez dans une église réputée, solide, forte, même charismatique, avec un pasteur aussi complètement réputé. Vous avez eu toutes sortes de messages. Votre conscience, votre éducation, la connaissance de la parole, les messages que vous avez reçus du pasteur qui est imbibé de la parole de Dieu et d'expérience, pétri. Et j'en passe, ne vous suffisent pas. Vous avez encore besoin d'autre chose. Je ne comprends pas. Et un autre homme dans la même église. J'ai dit, tiens, frère, tu es là. Et il me dit, mais pourquoi tu es là ? Le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit d'être là. Vous savez, j'ai rencontré aussi des chrétiens dans mon église qui ont dit « Le Seigneur m'a dit ». Moi, je vais vous dire très franchement, le Seigneur ne me dit jamais rien. Peut-être, quand je vais partir de chez vous, vous allez dire « Oh, franchement, ce pasteur, ce n'est pas un charismatique ». Mais je n'ai pas le sentiment que Dieu me parle, je n'entends pas directement, je ne parle même pas de voix audible, hein, le Seigneur me dire, peut-être d'une manière très rare, une injonction directe, mais habituellement jamais j'entends la voix de Dieu. Et que je suis convaincu que quand Dieu m'inspire, je ne suis même pas conscient qu'il m'inspire, tant mieux pour moi d'ailleurs, ça me gênerait. Et comme ça, on dit, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Un autre exemple. Moi, je lui ai dit à ce frère, je lui ai dit, écoute, mon frère, c'est la première fois que je parlais comme ça de ma vie. Parce qu'avant aussi, certains frères m'avaient dit ça, je me dis, au quoi, au cas où Dieu leur avait parlé, tais-toi. Et là, j'ai dit, écoute, Dieu t'a pas parlé de rien. Faut arrêter ce jeu. Faut arrêter ce jeu. Et un autre pasteur aussi, alors, disait, alors qu'on était étonné qu'il n'était pas étonné qu'un certain nombre de personnes venaient dans son église, de notre église, disait, oh, je ne suis pas étonné parce qu'une prophétie dans notre église vous a dit, Dieu envoie dans ton église des chrétiens d'une autre église. Et curieusement, je me demande s'il y aura dans le futur, une prophétie proclame prochainement, je ne sais pas quand, disant Dieu va envoyer les chrétiens de ton église dans une autre église. Je me pose la question. Et que ces choses seront reçues avec applaudissement encore en plus. Vous voyez, chers amis, chers frères et sœurs, quand les choses se passent comme ça, ce n'est pas au pasteur que l'on fait du tort. L'église n'est pas l'église d'un pasteur, d'une dénomination, de la fève ou je ne sais quoi. L'Église, elle est composée de ceux qui sont ajoutés, qui sont sauvés par le Seigneur. C'est le corps de Christ. Le pasteur, lui, au contraire, il apprend. Moi, j'ai appris des choses extraordinaires par les épreuves que j'ai passées. Et c'est vrai, quand, bien sûr qu'il y a de la souffrance, mais c'est une bonne souffrance. Élie, quand il s'est retrouvé dans la grotte, il souffrait. Peut-être de certains priaient pour lui, se disaient « ça va mieux mon frère, ce qu'on a fait à moi ». Et je remercie tous ceux qui m'ont consolé et qui m'ont aidé à ce moment-là. Mais quelque part, c'est tellement bon. Parce que c'est de l'émondage. C'est de l'émondage. C'est de l'émondage. Maintenant, je peux le dire, continue ton travail avec 3, 5, 10 personnes. Même s'il y en a 200, que toi tu n'es plus là, gloire à Dieu. Je peux le faire. Avec sérénité. Ce qui n'était pas le cas au début, moi aussi je voulais vraiment qu'il y ait du monde dans l'église. Et en plus on avait reçu des locaux énormes, je disais, oh, c'est nerveux, envoyer du monde. En 88, j'avais pris connaissance, comme quoi je vous avoue aussi être orgueilleux, j'avais pris connaissance avec un cousin pasteur qui se trouvait près de Mons en Belgique, il y avait 300 personnes ou plus dans son église. Oh frère, tu vas me donner des conseils. Le Seigneur voit les choses parfois autrement. Ah non, c'est pas aux hommes que l'on fait du tort. Même si ça fait souffrir, le Seigneur nous rattrape et nous émonde et il nous enrichit. La faiblesse, l'humiliation, la repentance, les épreuves enrichissent le chrétien. Amen. Et puis encore, il se trouve avoir encore moins de travail. Peut-être. C'est pas eux. Mais moi, je voudrais vous dire simplement, parce que je ressens vraiment cette nécessité de le dire au monde évangélique, vers qui j'irai, ne jouez pas avec Dieu. Arrêtez ce jeu. C'est trop sérieux. C'est trop sérieux. Alors, je ne fais pas de l'anticharismatisme hein, ce matin, vous avez compris. Mais je dis non, arrêtons ce jeu. L'humilité favorise la véritable unité, la soumission réciproque dans la crainte de Christ, l'entente dans la paix, le respect et la tolérance à l'égard du frère, la simplicité, la satisfaction et le contentement. Paul, premier modèle pour l'Église après Jésus, était-il orgueilleux? C'est pour couper en tout cas son orgueil que le Seigneur lui afflige une infirmité corporelle. Et il dit « Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Et cette dernière leçon nous entraîne dans les profondeurs, l'humilité nous entraîne dans les profondeurs, dans l'authenticité spirituelle, dans la vraie piété, dans l'acceptation des épreuves et des faiblesses. Ma grâce te suffit. Est-ce qu'elle nous suffit? L'humilité nous plonge dans la grâce chaque instant, et vécue par la grâce envers moi et envers mes frères. L'image la plus hideuse de l'autre est encore plus belle que la meilleure que j'ai de moi-même. Et je pense aussi, parce que ça peut faire l'objet d'une autre réflexion, il faut parler séparément de l'humilité et de l'humiliation. Vous savez, l'humiliation apprend l'humilité. Avant d'avoir été humilié, je m'égare, etc. L'humiliation. Et ce n'est pas... C'est quelque chose qui peut aller au-delà d'une prière, d'une réunion. L'humiliation. C'est une décision que l'on peut prendre avec le Seigneur. Le Seigneur vous y conduit, à un moment ou à un autre, face à des problèmes, face à des péchés tenaces, face à je ne sais quoi, à des choses que vous pouvez déplorer. L'humiliation. Alors on ne prend pas le sac et la cendre, comme les Israélites, mais être attentif, pendant le temps que c'est possible. J'en ai fait un petit peu l'expérience, pour moi-même. J'avais vraiment besoin de l'humiliation. Et tous les jours, pendant quelques semaines, j'ai recherché à être humilié, à m'humilier et à accepter l'humiliation, que ce soit en voiture, sur n'importe quelle circonstance. Et le Seigneur, vraiment, nous fortifie et il agit avec nous. Et il nous apprend aussi l'humilité. Voilà le simple message que je voulais vous présenter ce matin. Soyons vraiment sérieux avec la parole de Dieu, avec l'ordre qui doit régner dans l'Église, avec les appels que nous recevons. Nous pouvons, sans nous en rendre compte vraiment, se faire du tort les uns aux autres. Et la parole de Dieu nous dit, si vous vous mordez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Parfois, on constate des choses déplorables. Peut-être est-ce la conséquence d'un certain nombre d'autres choses que nous devrions prendre conscience et nous humilier vraiment. Prions le Seigneur, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, ce n'est pas toujours facile de délivrer un message. Puisqu'il y a des convictions qui sont là dans nos cœurs, nous voulons les partager. Seigneur, moi j'admets que ces convictions peuvent être provisoires, incomplètes, imparfaites. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, pour que cette parole soit reçue vraiment, selon ton esprit, selon aussi toute la connaissance que tu me donnes de ta parole. Et que, Seigneur, s'il n'est pas utile ce message pour nous aujourd'hui ou en ce moment, que quelque chose reste, si c'est ta volonté, pour que nous en prenions acte, conscience. Et aussi, Seigneur, pour que chacun et nous tous ensemble, nous puissions vraiment aller dans, selon ton esprit, nous qui nous réclamons d'être le temple du Saint-Esprit, nous te prions pour que nous ayons vraiment une connaissance de ton esprit, Seigneur, de cette petitesse qui te caractérise. Seigneur Jésus, nous te prions pour que nous laissions attirer, Seigneur, par ce que nous ne voyons pas. Nous te le demandons. Aide-nous en cela, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés, à nous, à moi-même, à toute l'Église, toutes sortes de péchés, c'est-à-dire de bien que nous ne faisons même pas, Seigneur, que nous devrions faire. Pardonne-nous, Seigneur, toutes nos lacunes, toutes nos difficultés de nous comprendre, de nous pardonner, de nous aimer et d'être fidèles dans les petites choses. puisque tu nous le demandes. Seigneur, donne de la persévérance à ton peuple. Nous te prions, donne de la fermeté à tes serviteurs. Une déontologie saine, juste, vraie, authentique. Nous t'en prions, Seigneur. Agis, Seigneur, dans ton peuple. Nous nous humilions pour nos péchés. Nous nous humilions pour nos écarts, pour nos manquements de toute nature. Seigneur, conduis-nous comme tu le veux. Amen.